Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Un secret de famille, les effets dévastateurs d'un énorme traumatisme affectif, un défi gigantesque, survivre dans l'immensité d'un désert affectif, supporter le rejet du père, les humiliations et les injustices, le manque de reconnaissance. Résister jusqu'à l'âge adulte à l'influence délétère de personnes toxiques, se dresser contre la fatalité et combattre la résignation, se contenter de moments de bonheur éphémère et enfin prendre confiance en soi, savoir finalement emprunter un chemin de résilience. Charlotte l'a fait. Et si vous souhaitez connaître le secret dont la révélation a libéré Charlotte, lui a permis de ne plus être une personne transparente et dont la vie n'est plus derrière, mais devant elle, alors je vous recommande vivement l'ouvrage de Jeanne Lhermine, La Transparence, paru en 2023 aux éditions Du Bord du Lot. Bonjour Jeanne Lhermine.
Bonjour Philippe.
Nous sommes ravis de vous accueillir à Parole d'auteur sur Radio Présence. Je salue nos fidèles auditeurs en leur précisant dès maintenant qu'ils peuvent réagir à nos émissions en se rendant sur le site et en utilisant le lien sous l'icône de l'émission qui leur permettra d'accéder à un forum. Et d'autre part, je signale que toutes les émissions de Parole d'auteur sont désormais accessibles et consultables sur les grandes plateformes numériques de podcast. Donc, Jeanne Lhermine, pourrais-je vous poser une première question, à savoir, se remet-on vraiment d'un traumatisme affectif subi pendant l'enfance?
Les premières années sont difficiles, certes, mais progressivement, avec de la volonté, de manière à ne pas subir son destin, mais à en être l'acteur, on peut se reconstruire.
D'accord. Et alors, vous précisez même que, bon, au-delà de la reconstruction, au-delà du fait d'être dans une position où on subit et où on est obligé de se méfier, vous dites aussi au début de votre livre que finalement, c'est une richesse, c'est quelque chose qui apporte un plus pour la personne en question. Donc, c'est aussi, finalement, un apport positif.
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
On va le voir en détail, puisque votre livre, qui s'appelle La Transparente, a pour sujet central, effectivement, le traumatisme affectif du personnage principal qui s'appelle Charlotte. Et les conséquences, et on peut dire les dégâts, de ce que vous appelez fort joliment le désert affectif. Mais auparavant, je vais essayer de préciser quelques petits éléments de biographie pour nos auditeurs. Donc, si je ne me trompe pas, vous êtes née à Paris, vous avez
oui.
fait votre carrière dans l'enseignement.
Tout à fait.
Vous avez été professeur d'allemand, professeur de lettres, et puis un jour, professeur des écoles. Alors, vous pouvez nous expliquer comment on fait ce parcours, qu'on passe de prof à professeur des écoles?
Oui, en fait, j'ai été en arrêt de travail pendant 2 ans, lorsque j'ai eu mon fils, et la maternité m'a donné envie de rentrer dans la pédagogie de l'enfant. C'est la raison pour laquelle j'ai passé le concours pour être professeur des écoles. Et comme j'adorais être professeur d'allemand, mais j'avais quand même quelques petites difficultés d'autorité avec les élèves de 3e, donc j'étais ravie de changer et de passer du collège au primaire.
D'accord. Donc une réorientation en fonction des circonstances et peut-être mieux adaptée à vos goûts.
Tout à fait.
Bien. Alors, je suis très fière, Jeanne Lhermine, parce que d'habitude, je présente la bibliographie de mes invités. Et ici, c'est très court, mais j'en suis très fière, puisque c'est votre premier roman. Donc, je le signale aux auditeurs. Premier roman qui, personnellement, m'a beaucoup ému, dont le style est très soigné, avec des descriptions d'ambiance, de ressentis très variées en fonction des époques et de l'âge du personnage principal, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Alors, je pose souvent cette question, mais qui n'est pas une question bateau finalement, c'est dire d'essayer de voir que vous nous fassiez voir et expliquer votre démarche. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre? D'où ça vient?
En fait, après mon bac, lorsque j'ai commencé mes études universitaires, j'ai eu envie d'écrire. J'ai toujours adoré le français et j'étais bonne en rédaction. Et donc, j'avais déjà vécu pas mal de choses que j'avais envie de retranscrire sur papier. Et notamment cet amour exclusif que j'avais pour ma maman. Mais absolument pas dans le but de le publier, uniquement pour moi, pour avoir tous mes souvenirs, un peu comme un journal intime, sur papier. Et donc, au fur et à mesure des années, je rajoutais des passages, je corrigeais, et jusqu'à
très, très peu de temps.
C'est cela, oui. C'est-à-dire que ce n'est qu'une fois que j'ai été à la retraite, que j'ai rencontré mon compagnon, qui est lui-même écrivain, qui a lu mes écrits, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait croire en moi, oui. Et qui m'a énormément aidée dans la correction, qui m'a donné des idées, et c'est de là, et qui m'a conseillé donc de le faire publier.
Voilà, donc c'est lui qui a été petit peu l'élément déclencheur. Oui. Et alors, on peut dire que le livre tel qu'il est publié est issu tout de même d'une longue maturation, puisque c'est quelque chose qui vous portait, enfin que vous teniez en vous.
Oui.
Et vous avez donc décidé d'écrire. Alors, une question se pose, c'est, vous avez plutôt choisi d'en faire un roman plutôt qu'une autobiographie. Pour quelle raison?
Parce que j'étais toujours en questionnement et je me suis dit, le lecteur se posera les mêmes questions. Donc, il fallait que je donne des réponses au lecteur. C'est la raison pour laquelle j'ai édulcoré un petit peu mon roman. Je l'ai romancé et j'ai donné des réponses agréables. Et c'est toute la partie qui n'est pas autobiographique.
Voilà, donc, et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme du roman. Alors au-delà, on comprend bien que dans votre démarche d'écriture, il y a un côté entre guillemets thérapie, un côté on pourrait le qualifier d'essayer de formaliser une certaine résilience, mais aussi vous êtes très soucieuse du partage, puisque au début du livre vous dites écrire pour donner un espoir, écrire pour les victimes d'un traumatisme affectif. Donc ces éléments de témoignage pour les autres, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur?
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre toute sa vie sur une continuelle excuse. Je pense qu'il faut se faire violence si l'on veut s'en sortir, et on le peut à force de volonté et en s'appuyant sur les personnes positives qui nous entourent. Voilà, donc c'est le message que je voulais faire passer, c'est on peut s'en sortir si on ne se laisse pas aller.
Voilà, c'est un grand message d'espoir, et ce sont autant de leçons et d'éléments qui sont donnés aux lecteurs qui peuvent permettre effectivement de se construire un chemin de résilience quand on a été dans le même cas.
Tout à fait. Voilà.
Alors, on a bien compris la maturation de votre livre qui s'est fait sur de nombreuses années. Et j'aimerais bien que vous expliquiez à nos auditeurs comment vous avez fait pour écrire le manuscrit qui résulte de ce livre qui est paru, c'est-à-dire dans la période où vous avez décidé ce livre va paraître, vous avez écrit, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez si vous aviez un rituel d'écriture, si vous aviez besoin de silence, vous mettiez de la musique, vous y reveniez de temps en temps. Enfin, comment ça s'est passé?
En fait, j'ai la chance d'avoir une pièce bureau que je partage avec mon compagnon. Et tous les deux, nous écrivons sans musique, dans le silence. Et au départ, je couche mes idées sur papier, c'est-à-dire chaque chapitre a un plan. Donc, je mémorise mes idées et ensuite, je me lance dans l'écriture. Et ensuite, je relis, je fais des corrections avant de passer au chapitre suivant.
D'accord. Une autre question, Jeanne Lhermine, c'est un pseudo, que l'on dit, c'est un très joli nom d'auteur que vous avez choisi. Vous pouviez nous expliquer pour quelles raisons vous avez préféré écrire sous pseudo, d'une part, et d'autre part, quels ont été les critères de choix pour ce pseudo?
Alors, les critères de choix pour ce pseudo, Jeanne, c'est le prénom de ma maman. Et Lhermine, c'est un diminutif de Lherminier, qui était le nom de famille de mon arrière-grand-mère, que j'appelais Bonne Maman. Voilà, ce sont deux personnes qui m'ont apporté beaucoup de positif, que j'ai beaucoup aimé, et il fallait que dans ce livre, elles apparaissent au travers de mon pseudo.
Et donc, ce pseudo est chargé d'histoire, d'émotions, c'est très profond. Et je lis au passage parce que au cours de la lecture de ce roman, on retrouve des expressions, des descriptions d'attitudes qui sont très fortes, qui reflètent des sentiments très forts. Donc, vous êtes totalement dans la continuité en termes de rédaction depuis le titre jusqu'à la fin du roman. Alors, je voulais vous demander comment on pourrait qualifier votre roman. Moi, à sa lecture, j'ai tout d'abord vu un aspect récit de vie, mais aussi un aspect secret de famille.
Hein? Oui.
On y voit, comment dire, un manuel pour donner de l'espoir, pour parcourir un chemin de résilience et plus globalement d'un témoignage. Laquelle de ces expressions, de ces qualificatifs, convient le mieux à votre roman?
C'est un récit de vie auto-fictif qui représente un témoignage. Et d'ailleurs, je suis extrêmement surprise de recevoir les ressentis des différentes personnes qui ont lu mon roman et qui se retrouvent et à des passages bien différents. Ça leur rappelle leur jeunesse, ça leur rappelle la pension chez les religieuses, ça leur rappelle donc à des niveaux très différents, les personnes ont un ressenti qui leur permet de se transposer dans le personnage de Charlotte.
Alors effectivement, je confirme, et pour illustrer vos propos, si je peux me permettre, je me suis retrouvé dans ce roman, je le cite pour l'anecdote, par rapport à certaines expressions, et notamment l'expression, l'appellation « bonne maman »,
oui,
que j'avais entendu être utilisé par ma mère vis-à-vis de sa belle-mère. Donc effectivement, c'est un roman et un texte qui peut toucher tout le monde, mais de manière très différente. Et c'est vraiment l'intérêt de cette écriture qui permet d'accompagner le personnage principal dans son vécu depuis très jeune jusqu'à l'âge adulte. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est très intéressant et très touchant. Au-delà de ça, vous avez eu d'autres retours sur ce roman?
Oui. Les personnes étaient très touchées. On trouvait que c'était un roman très émouvant. On était très touchés par le personnage de Charlotte. ont trouvé qu'elle était courageuse. Et ce livre se lit très facilement. Et j'ai même une personne qui m'a dit, j'ai commencé à le lire à 10h du soir et je l'ai terminé dans la nuit, parce que j'avais vraiment envie de connaître la suite. Donc c'est le ressenti des lecteurs et lectrices, c'est envie de connaître la suite à chaque page.
Voilà. Ce qui rejoint la notion qualificative de secret de famille, parce que effectivement, au fond de cette histoire, il y a un secret de famille qui n'est dévoilé qu'à la fin et que nous ne dévoilerons pas,
bien
naturellement.
Sûr.
Mais on sent une progression au travers, au fur et à mesure que les chapitres se déroulent, d'une petite progression vers ce fameux secret. Et on a quelques petits indices, plus ou moins évidents, qui fait qu'effectivement, on est très motivé pour tourner la page, finalement. Bien, je vous propose maintenant de faire la première pause musicale.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Jeanne Lhermine, pour son ouvrage La Transparente. Jeanne Lhermine, pour son ouvrage La Transparente, paru, je le rappelle, aux éditions du Bord du Lot. Jeanne Lhermine, La Corrida, comment elle arrive ici?
En fait, c'est pour rendre hommage à une personne qui est décédée. et qui aimait énormément cette chanson. Et à ce sujet, j'ai une anecdote qui m'a frappée. En sortant d'une messe qui était dite pour lui, j'étais avec mon fils et nous rentrons dans la voiture, on allume la radio et au moment même où on allume la radio, passait cette chanson. Ce qui veut dire que cette personne était là, à nos côtés. Voilà, c'est un petit coucou de là-haut.
Voilà, très bien, très bien. Alors revenons à votre récit. Dans ce livre, on peut distinguer deux temps. Un premier temps qui est consacré à la description de l'environnement hostile du personnage principal. Et dans un deuxième temps, son évolution, son parcours sur le chemin de la résilience. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de voir un petit peu, de camper un petit peu le décor par rapport à cet environnement, d'ailleurs plus ou moins hostile, suivant les personnes. Mmh. Alors, le personnage principal, elle s'appelle Charlotte. Alors, qui est Charlotte ?
Alors, Charlotte, c'est une petite fille qui a perdu sa maman, donc à l'âge de 10 ans, qui est d'une hypersensibilité, d'une hyper-émotivité. Et étant l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, elle s'est trouvée, à la suite du décès de sa maman, très maternelle avec ses frères et sœurs. C'est quelqu'un de très courageux, mais de volontaire et de déterminé, qui sait ce qu'elle veut. Rêveuse parfois. Malheureusement, au contact de personnes toxiques telles que sa grand-mère paternelle, elle a développé un complexe d'infériorité et elle a perdu confiance en elle. Donc c'est tout cela qu'elle a dû reconstruire au fur et à mesure des années.
C'est une personne hyper émotive, hyper sensible et qui effectivement chemine progressivement à la recherche de soutien, de support, de personnes par rapport auxquelles elle pourrait se raccrocher pour essayer d'aller au-delà de son caractère propre et de son environnement qui lui est imposé.
Oui, comme des béquilles. Oui.
Ouais, bon, bien. Alors ensuite, il y a Bénédicte, la maman. Alors,
oui.
La maman, quel trait de caractère particulier elle a ?
Elle était très soumise envers son mari, très effacée. Elle était d'une nature fragile, frêle. Elle était dévouée corps et âme à ses enfants. Et physiquement, c'était une personne très classe dans sa manière de s'habiller. D'ailleurs, en tant qu'ancienne professeure de couture, elle était très habile de ses mains et elle faisait tout à la maison, jusqu'aux vêtements de ses propres enfants, en passant par les dessus de lit, les doubles rideaux. Elle avait de magnifiques réalisations. Et parallèlement, elle avait aussi un don pour le dessin. Elle avait un coup de crayon qui était sans avoir pris spécialement de cours de dessin. C'était inné.
Et donc, quand vous dites effectivement qu'elle était soumise et effacée, ce sont des éléments qui sont importants et qui se révèlent effectivement très très importants dans la suite du roman. Nous n'irons pas plus loin dans les explications, mais sa situation maritale explique aussi que finalement elle accepte la situation dans laquelle elle est parce qu'elle se sent redevable vis-à-vis de son mari
bien oui. Sûr, puisqu'elle est totalement dépendante de lui financièrement.
Voilà. Et c'est cette notion qu'elle fait qu'elle est redevable, et étant redevable, elle doit accepter un certain nombre de choses qui finalement devront l'être aussi par sa fille. un petit peu. Oui. Je me trompe dans...
Vous pourriez expliciter un peu.
Bien, c'est-à-dire que moi, j'ai vu dans la soumission de la mère quelque chose qui se répétait au niveau de sa fille, surtout lorsqu'elle était en bas âge et qu'elle était petite fille, et que finalement, c'est quand la soumission va cesser, quand la révolte va arriver, ce qu'on va voir un peu plus tard, là, elle change de caractère et elle s'éloigne un peu en termes de caractère de sa mère.
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, après le décès de sa maman, elle s'est tellement identifiée à elle qu'elle voulait la faire revivre en elle. Et avec justement cet esprit de soumission, même un goût très prononcé de la couture comme sa maman, un côté très maternel envers ses frères et sœurs comme sa maman. Et ce côté soumis vis-à-vis de son père reflétait un peu le caractère soumis de sa maman. Jusqu'au jour où elle a eu une prise de conscience et qu'elle s'est révoltée parce qu'elle s'est rendue compte que, elle, comme je vous l'ai dit tout au début de l'entretien, elle ne pouvait pas vivre toute sa vie sur une continuelle excuse. Et si elle voulait réussir sa vie, elle devait réagir.
Voilà. Et alors, ce qui est très important, puisque c'est aussi une déclaration, un témoignage qui permet de dire que rien n'est jamais perdu, même si on est au départ dans des conditions qui sont très difficiles, même si on est dans une sorte de mimétisme de comportement par rapport à ses parents, eh bien, vous pointez l'espoir en disant « c'est possible de changer de cap ».
Tout à fait.
Voilà. D'accord. Alors, passons au père. Il s'appelle Philippe.
Oui.
Alors, ce monsieur, comment est-il ?
Alors, il est... Déjà, il est d'une nature très avare. Ça, c'est... Mais il est très ambitieux pour lui-même. Il s'est forgé une très belle situation. C'est une qualité qu'on lui reconnaît. C'était un homme extrêmement travailleur au niveau des études. Et... en fait, ça a été, je dirais, son seul motif de vie. Il s'est davantage occupé de sa situation professionnelle que de ses propres enfants. C'est-à-dire qu'au décès de son épouse, il a réalisé qu'il avait 4 enfants sur les bras et qu'il fallait s'en occuper. Et en aucun cas, ses enfants ne devaient nuire à son évolution professionnelle. Voilà, donc il était très peu patient avec ses enfants. Il était même très dur. Il n'avait pas d'affect, en fait. Il n'était absolument pas affectueux. Par contre, il faisait des différences affectives au niveau de ses enfants. Il avait une très nette préférence pour son fils aîné, qui était pour Stan, son premier fils, qui allait porter son nom. Et puis pour Bertille, la jumelle, qui ressemblait énormément à sa mère physiquement, au détriment des deux autres. Voilà. Sinon, il était très dur et très moqueur. Et il avait une facilité à rabaisser les gens qui était très forte.
Donc, un père sans affect, un père... dur et rigide avec ses enfants.
Oui, je dirais même psychorigide et j'irais même jusqu'à dire pervers narcissique.
Voilà. Donc ce qui sous-entend une quasi impossibilité pour une petite fille d'essayer d'établir un lien ou un rééquilibre des relations.
Hein? Oui.
Voilà. Alors nous n'allons pas passer en revue tous les personnages. Simplement, ce que je voudrais préciser, c'est que parmi l'entourage et les personnages que vous décrivez, Charlotte est amenée à rencontrer des personnages qui sont un petit peu la déclinaison du père, c'est-à-dire des personnages plutôt hostiles. Et puis, progressivement, elle arrive à se faire des amis, à rencontrer des gens et à sortir de ce piège de la relation de soumission et de domination. Et à cet égard, vous décrivez des situations où cette petite fille est victime d'une religieuse dans une institution qui s'acharne à la punir. Et ce qui l'a, finalement, on ne sait pas si c'est la cause ou si c'est la conséquence, mais en tout cas, elle se retrouve dans la même situation que vis-à-vis de son père, quelque part.
Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ça, c'est au début du livre. Oui. Elle est mise effectivement en pension de l'âge de 7 ans à 9 ans. Sa maman, étant très fatiguée à la suite de ses grossesses successives, il fallait qu'elle se sépare des deux aînés pour reprendre souffle un petit peu. Et donc, c'est là qu'elle a été mise en pension en Normandie, là où habitait son bonne maman, son arrière-grand-mère. Et une religieuse en particulier l'a vraiment persécutée parce qu'elle était jalouse de voir que cette petite fille était autant gâtée par son arrière-grand-mère, qui en fait, en la gâtant, essayait de compenser ce manque affectif de sa maman. Et donc, elle l'a véritablement brimée, poursuivie, l'accusant même à tort de vol d'un paquet de bonbons, sans dévoiler le livre.
Et la petite avouant une chose qu'elle n'avait pas commise.
Qu'elle n'avait pas commise, oui. Et ça l'a poursuivie de longues années.
Voilà. Et là, vous décrivez un processus de cumul et qui contribue à l'augmentation de l'émotivité en disant,
tout à fait.
Au sein de la famille comme à l'extérieur, c'est toujours la même chose.
Oui.
Ce qui provoque chez elle un manque de confiance en soi terrible.
Tout à fait, voilà. Oui.
Vous pointez une autre conséquence, enfin une autre cause de cette dislocation affective, c'est effectivement plutôt la dislocation de la cellule familiale. Parce que les circonstances ont fait que, à la mort de la mère, la cellule familiale explose.
Oui.
Et vous décrivez très bien les conséquences profondes que ça engendre.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui vous paraît être très important par rapport à l'attitude du père, ou c'est quelque chose qui... c'est la cerise sur le gâteau, si on peut dire, sans ironie, le fait de dire que ça rend encore la situation moins supportable pour la petite Charlotte.
Oui, parce qu'en fait, elle n'avait de cesse que de revenir dans la maison, de reconstituer la cellule familiale, et alors que son père, en fait, c'était en quelque sorte débarrassé des enfants chez les grands-parents en pension. Et son désir profond tout au long de ces années, c'était se retrouver dans la maison de sa maman avec ses frères et sœurs pour reconstituer ce noyau familial.
Qui lui avait tant manqué.
Oui.
Très bien. Je vous propose de faire dès maintenant une seconde pause.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Viens.
d'auteur. Philippe Gilbert.
Toujours en compagnie de Jeanne Lhermine pour son ouvrage La Transparente, paru, je le rappelle, aux éditions du Bord du Lot. Ô ma douce souffrance, pourquoi s'acharner ? Tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Lorsque nous avons écouté cette chanson, j'ai vu, Jeanne Lhermine, que vous étiez très émue.
Oui, chaque fois que j'écoute cette chanson, j'en ai les larmes aux yeux. Je suis très émue, très touchée par la fragilité de la voix de l'interprète. Et je ressens sa souffrance, qui me rappelle un peu la mienne, celle de Charlotte. Et lorsque, au refrain, elle dit « et je danse et je m'envole », ça m'évoque la légèreté de Charlotte lorsqu'elle a pris son envol. Elle est pleine d'espoir dans la vie qui l'attend. Et donc, c'est pour ça qu'elle vole, qu'elle danse, parce que elle sort de son carcan familial et elle est pleine d'espoir vers la vie qui l'attend. Voilà.
Et donc, effectivement, le parallèle ou le rapprochement est vite fait avec le personnage de Charlotte.
Oui.
C'est clair.
Oui, exactement.
Alors, revenons pour terminer sur l'environnement hostile. Cet environnement hostile est aussi constitué de ce que l'on pourrait qualifier de non-dit et de l'observation d'une certaine fatalité dans la répétition des situations. Alors, je pense en particulier que dans les non-dits, souvent, elle ressent ce sentiment de rejet qui n'est pas forcément complètement exprimé. Et elle dit souvent « je n'intéressais personne » ou « pourquoi cet acharnement sur moi ?» Les rares moments où elle redresse un peu la barre, il y a toujours un événement derrière qui vient, sinon l'annihiler, au moins le tempérer,
oui,
par un mais. Et j'ai remarqué que souvent, dans les phrases que vous employez, vous nous entraînez en disant « on est tous là, tiens, Charlotte va aller mieux, etc. etc. » Et hop, on passe au mais. C'est ce que j'aurais tendance à qualifier de... Il y a une sorte de litanie des mais pour,
oui,
voir que la progression est difficile et la progression est toujours, ce chemin de résilience est toujours susceptible de présenter un obstacle, voire une régression dans le cheminement.
Oui.
C'est ça que vous avez voulu,
oui,
exprimer ?
C'est-à-dire que rien n'est jamais totalement acquis. Tant qu'elle n'a pas pris son indépendance, elle commence à reprendre espoir, à prendre confiance en elle. Et hop, à ce moment-là, il y a un événement extérieur qui vient la faire redescendre et lui faire reperdre cette confiance qu'elle avait acquise et qui la fait repartir de zéro.
Voilà. Et donc, c'est presque systématique. Et donc, ça l'entretient un petit peu dans cette situation. Mais un jour, comme vous le dites, page 27, puis... un jour, je me révoltais. Et il y a une sorte de basculement dans lequel nous n'allons pas entrer en détail, mais il y a quelque chose aussi des descriptions d'anecdotes qui marquent cette révolte, qui n'est plus une révolte contenue, mais une révolte qui s'externalise, qui s'extériorise. Et en particulier, j'aimerais bien, si vous le voulez bien, que vous nous resituez l'épisode de la mobylette, parce que ça, c'est vraiment caractéristique et à peine croyable.
Oui, c'est-à-dire que le père avait l'habitude de subtiliser les Noëls de ses enfants pour lui-même. Et
vous voulez dire les cadeaux que recevaient d'autres membres de la famille les enfants, le père les interceptait.
Oui, ce qu'offraient les grands-parents pour les enfants. Mmh. C'était surtout sous forme de chèques. Et Charlotte et son frère Stan avaient besoin d'une mobilette. Et donc, elle a été achetée tout simplement avec les deniers offerts par les grands-parents. Donc, Charlotte considérait que cette mobilette lui appartenait. Et lorsqu'elle a pris son indépendance, elle a repensé à cette mobilette qui était restée au domicile familial. Et elle s'est dit, mais après tout, cette mobilette m'appartient puisqu'elle a été payée avec mes Noëls. Donc, je vais aller la rechercher. Et elle a repris contact avec son père, assez tremblante. À cette époque, il s'était remarié. Et donc, elle est arrivée, elle a pris son courage à deux mains et elle a demandé à récupérer sa mobilette. Bien sûr, son père lui a opposé un refus. Et il est sorti à l'extérieur, dans le jardin, en invitant sa femme à le suivre et en m'invitant à sortir de la maison. Je l'ai suivi. Et donc il est parti, et comme Charlotte refusait de sortir de la maison, eh bien, il l'a tout simplement enfermée dans le jardin. À ce moment-là, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire, enfermée dans le jardin, sans avoir réussi à récupérer ma mobilette. Et avisant un tip-tap qui servait à arroser le jardin, elle a eu l'idée de casser un carreau, qui était malheureusement un carreau de la chambre de Stan, et de manière à pouvoir ouvrir la fenêtre, traverser la chambre, aller jusqu'au garage. Manque de peau, il y avait un antivol sur la mobilette. Qu'à cela ne tienne, elle avait une telle volonté, une telle force en elle pour récupérer cette mobilette qui lui appartenait, qu'elle a traversé tout le rez-de-chaussée avec la mobilette, l'a repassée par la fenêtre de la chambre, a traversé le jardin. Et en arrivant devant le portail, eh bien, il fallait la lever pour la passer de l'autre côté. À bout de bras, de toutes ses forces, elle a soulevé cette mobilette et l'a descendue tout doucement pour ne pas la casser, de l'autre côté. Et ensuite, elle a enjambé, grimpé après le portail. Et ça y est, elle avait réussi ce qu'elle voulait à force de volonté, à récupérer sa mobilette, qu'elle a emmenée ensuite chez une amie d'enfance, qui a scié l'antivol.
Et là, la mobilette est devenue... elle a reçu sa mobilette en pleine propriété, si on peut dire.
Voilà.
Alors effectivement, c'est presque une allégorie pour illustrer la force de la volonté, d'une part, et d'autre part, de marquer le point à partir duquel on prend une décision. Quand la décision est prise, ça y est, les choses ont basculé.
Voilà, enfin, jusqu'au bout.
Voilà. Mmh. Alors, revenons au titre, La Transparente.
Oui.
Expliquez-nous ce choix. Parce que on relève dans votre texte un certain nombre d'expressions qui effectivement vont dans le sens de la transparence. Alors donnez-nous une petite définition de la transparence de Charlotte, très rapidement.
Charlotte est très dévouée envers ses frères et sœurs. Elle s'en occupe énormément. Elle est hypersensible. Elle est très à l'écoute, mais elle n'en reçoit aucune reconnaissance. C'est comme si tout ce qu'elle faisait était un dû. Et donc, elle a beaucoup souffert de ne pas être reconnue, entre guillemets.
Voilà. Non seulement elle n'est pas reconnue, mais la conséquence, c'est aussi qu'elle est niée dans son existence.
Tout à fait, niée dans son existence, annihilée dans sa personnalité, et elle n'a reçu aucune valorisation.
Voilà. Et le constat qu'on est amené à faire, c'est qu'effectivement, elle dit « J'étais niée dans mon existence, j'avais l'impression d'être un pion sans odeur ni saveur. Je me sentais une sans valeur, une sans importance, c'est-à-dire que finalement, c'est une problématique existentielle, c'est-à-dire je n'étais reconnu de personne, personne ne me voyait, j'étais donc transparente.
Tout à fait.
C'est ça le fond de l'histoire que je me permets de résumer rapidement pour nos auditeurs. Bien, juste un point supplémentaire, avant hélas de nous quitter, mais l'entretien est passé si vite, vous évoquez sur ce long chemin de la résilience un élément fondamental, un élément salvateur, un élément qui va lui donner un élan de vie, lui en trouver des perspectives porteuses et l'entraîner vers une certaine sérénité retrouvée, c'est le piano, la pratique du piano.
Tout à fait. Tout à fait, qui m'a été refusée parce que, étant petite, j'ai éprouvé une certaine passion pour le piano en écoutant mes camarades jouer. Et bien sûr, mon père était totalement insensible à cette vocation. Il a quand même fini par accepter une année, de m'offrir une année de cours. Et là, j'étais tellement motivée pour apprendre des morceaux que j'ai étonné la professeure de piano. Et celle-ci a demandé un rendez-vous à mon père pour lui proposer de suivre un cycle de musique-études. Mais pour cela, il fallait changer d'établissement. Et bien sûr, le père de Charlotte a refusé.
Voilà. Et donc, face à cette possibilité, je dirais, de retrouver une motivation, un sens dans la vie, un élan positif, ça s'est finalement réalisé un peu plus tard, mais cela a été un véritable tremplin pour Charlotte.
Donc, de s'appuyer sur la musique.
Voilà, j'insiste sur ce sujet auprès de nos auditeurs pour cet élan vital porté par la pratique du piano est décrite de manière très fine dans votre ouvrage. Alors, je voudrais, avant de nous quitter, que nous parlions un petit peu de votre style. Ce style, qui est un style, je dirais, ciselé en fonction des périodes de l'âge de Charlotte. Il y a un vocabulaire de l'enfance. Au début, il y a un vocabulaire de l'adolescence ensuite et un vocabulaire adulte. Et on sent bien cette variation du vocabulaire. Et au-delà de ça, on a effectivement un vocabulaire qui décrit et qui fait ressentir l'affectif, l'émotivité. Et donc, je voudrais insister à nouveau que... Effectivement, en lisant ce livre, on est ému par le parcours de la petite Charlotte et au fur et à mesure que l'on tourne les pages, on espère que les choses vont s'arranger et je vous conseille de tourner les pages jusqu'à la dernière. Bien, en conclusion, je voudrais dire que finalement vous avez donné quelques clé pour la résilience et que peut-être la clé principale de la résilience, c'est de savoir pour comprendre. Puisque elle ne savait pas exactement d'où
venait ce rejet.
Voilà, d'où venait ce rejet, ce qui se passait. Donc c'était très difficile pour elle. Elle a eu longtemps des indices et... La fin du roman montre qu'effectivement, il y avait des explications. Donc c'est pour ça qu'en quelque sorte, on peut peut-être dire que ça, la clé de la résilience, c'est d'abord savoir pour comprendre, peut-être.
Tout à fait, tout à fait. Elle a enfin la réponse à tous ces questionnements.
D'accord. Bien.
Mais je n'en dirai pas plus.
Il ne faut pas en dire plus. Alors, sans doute, comme tous les auditeurs, j'ai capté aussi... que de temps en temps vous vous identifiez à votre personnage principal ou que c'est le personnage principal qui s'identifie à vous, c'est une excellente démonstration de la sensibilité et de la force de ce roman où effectivement on sent du On sent du vécu et on sent aussi que bon, il est toujours difficile de romancer les choses, de jusqu'à quel degré on peut les romancer. Mais en tout état de cause, on ressort de cette lecture avec un sentiment très fort par rapport au parcours de Charlotte. Jeanne Lhermine, merci mille fois de votre présence.
Merci aussi, Philippe. Voilà.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir à cette émission. Et que les podcasts de toutes nos émissions sont désormais disponibles sur les plateformes numériques en podcast, Apple, Google, Spotify, etc. Et je rappelle aussi les heures de diffusion de Paroles d'auteur, le mercredi à 10h, suivi d'une première rediffusion le vendredi à 19h et d'une seconde le samedi à 17h. Au revoir à tous et merci.